Alors ce matin, nous allons lire dans le premier livre des Rois, au chapitre 18, à partir du verset 17. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu allais auprès des Baals. Maintenant, fais rassembler tout Israël auprès de moi à la montagne du Carmel. Et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. » Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple : « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux. Qu'il le coupe par morceaux et qu'il le place sur le bois sans y mettre le feu. Moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Élie dit au prophète de Baal, « Choisissez-vous l'un des taureaux, préparez-le le premier, car vous êtes plus nombreux et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna, ils le préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à voix haute. » Puisqu'il est Dieu. Il pense peut-être à quelque chose, ou il est occupé. Il est en voyage, ou peut-être qu'il dort, il se réveillera. Ils crièrent à haute voix, ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de deux mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, le plaça sur le bois, puis il dit « Remplissez 4 cruches d'eau, versez-les sur l'Holocauste et sur le bois. » Et il dit « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Et il dit « Faites-le une troisième fois. » Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'eau remplit aussi le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi Israël, réponds-moi Éternel, réponds-moi afin que le peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, consuma l'Holocauste, le bois, les pierres, la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. » Jusqu'ici. Alors avant de poursuivre, je vous invite à chanter le 427. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. C'est un des passages connus du prophète Élie, et qui avait un sens de l'humour d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est le prénom qui veut ça, mais il avait de l'humour. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense peut-être à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. Je pense que quand on veut énerver quelqu'un, quand quelque chose ne marche pas et quand on veut l'énerver, je pense qu'on ne s'y prendrait pas mieux. Et puis, le prophète Élie, quand il a dit au peuple d'Israël, mais choisissez en quelque sorte qui vous voulez servir. Si l'Éternel est votre Dieu, servez-le. Si c'est les Baals, servez-le. Mais choisissez. Et la Bible nous dit, le peuple ne lui répondit rien. Généralement, quand on répond rien, c'est d'abord qu'on n'a rien à dire et c'est généralement un mauvais signe. C'est signe que ça ne va pas. C'est signe qu'on ne sait pas exactement où on en est. Hein, aujourd'hui, on a plein de sondages, c'est les élections bientôt, et on entend plein de gens qui disent « Ah, je ne sais pas encore pour qui je vais voter. » Alors, rien pour eux, c'est clair. Et puis, pour d'autres, c'est pas clair. Bon. Et ben, quand c'est pas clair, ça veut dire qu'on ne sait pas, qu'on n'est pas convaincu. Et quand le peuple ne répondit pas, ben, c'est qu'il n'était pas convaincu. Voilà. Il n'était pas convaincu que l'Éternel était Dieu, et il n'était pas plus convaincu, d'ailleurs, que les Baals pouvaient lui apporter quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où il faut quand même le reconnaître, Dieu n'est pas véritablement au centre de nos préoccupations. Pour la plupart, je dirais, du temps, pas, je ne parle pas pour nous aujourd'hui, bien évidemment, mais pour la plupart du temps, quand vous posez la question aux gens, vous savez, Dieu, vous savez, aujourd'hui, oui, peut-être, un petit peu, comme ça, vous savez, j'étais chrétien quand j'étais jeune, j'allais à l'école biblique, j'allais au catéchisme, j'étais servant d'église, enfin bref, voilà. Et puis on a grandi, et puis c'est un petit peu comme les vaccins, vous savez. Au début, quand on est à l'école, on est obligé de se faire vacciner. Et puis quand on n'est plus à l'école, ben, on oublie tout. Voilà, ben, c'est un petit peu comme ça avec Dieu. C'est-à-dire qu'on grandit, puis on oublie tout. Et puis la vie, je dirais, prend le dessus, notre travail prend le dessus. Et souvent, on entend les gens qui nous disent, ah, vous savez, mon travail, c'est tout pour moi. Mon travail, c'est tout. Ma vie, c'est tout. Ce que je fais, je ne sais pas, tout ce qu'on peut imaginer, le travail, le chant, le sport, par exemple, regardez le sport. Aujourd'hui, le sport, c'est une véritable divinité. Les sportifs, le foot, tout ça, c'est une véritable divinité. Ils sont vraiment considérés comme des dieux. Quand on voit des matchs et tout, ce que ça peut susciter, hein, je ne suis pas contre le sport, hein, évidemment, mais je veux dire, il y a des degrés quand même, bon. Et on voit quand il y a des matchs de foot et tout, c'est une véritable liesse, au niveau des gens, on a l'impression qu'il n'y a plus rien d'autre qui compte. D'accord ? Et souvent, c'est parce que les gens, souvent, se sont consacrés uniquement à leur travail, à ce qu'ils voulaient, ce qu'ils désiraient dans la vie, qu'ils se rendent compte à un moment donné qu'ils sont en panne. Hein ? Et ils se rendent compte, en fait, que ce qu'ils ont voulu, ce qu'ils ont désiré de tout leur cœur, en fait, ne leur apporte au final absolument rien. Et bien souvent, nous avons des gens qui sont déçus et nous disent « Je pensais que ça m'apporterait quelque chose. Je pensais vraiment que la réussite de mon travail pourrait m'apporter quelque chose. » Et souvent, il m'est arrivé de rencontrer des fois une personne qui m'avait dit « J'ai tout raté dans ma vie. » C'est-à-dire que j'avais une femme, des enfants, et j'étais tellement dans mon travail, j'étais tellement préoccupé par mon travail, j'ai passé tellement de temps dans mon travail qu'un jour je suis rentré, il n'y avait plus personne à la maison. Et je m'étais rendu compte que j'avais négligé ma fille, ma vie, ma famille, mes enfants, et que seul mon travail comptait. Et c'est terrible d'en arriver là, bien évidemment. Alors, il y a d'autres choses aussi, d'autres, entre guillemets, balles vers lesquelles nous nous tournons, je dirais, dans le monde. Aujourd'hui, les voyantes, les voyants, les marabouts, quand vous voyez dans le métro, ils vous donnent des petites affichettes là, pour appeler un marabout, hein, si vous avez ceci, si vous avez cela, besoin d'amour, besoin d'argent, une voiture neuve, un nouveau travail, un nouveau costume, voilà. Et ben, vous appelez le marabout machin, et puis il va vous donner tout ce que vous voulez. Voilà. En gros, c'est comme ça que ça fonctionne, moyennant argent, bien évidemment. En fait, on perd souvent de l'argent et on ne gagne rien de l'autre côté. Et on voit aujourd'hui... On se tourne vers ces choses, on se tourne vers tout ce qui est voyance, horoscope, et on n'a jamais été autant préoccupé par ces choses aujourd'hui. Un pasteur me racontait un jour une anecdote à Bruxelles. Il me disait, un jour, dans les kiosques, un journal ne s'est pas du tout vendu. Il y a une chute spectaculaire des ventes. Il m'a dit, est-ce que tu sais pourquoi? Je lui ai dit, ben non. Il me dit, parce qu'en fait, les gens, quand ils achetaient le journal, ils regardaient tout de suite la dernière page. Et la dernière page, c'était quoi? C'était l'horoscope. Et pour une raison technique, l'horoscope n'avait pas pu paraître. Eh bien, les gens ne voulaient pas le journal. Et vous auriez dit à tous ces gens, mais vous y croyez à tout ça? Ils vous auriez dit, ben non, évidemment qu'on n'y croit pas. Mais pourquoi je le lis alors? Pourquoi je m'intéresse à tout ça? Pourquoi j'appelle des numéros où je cherche à voir un petit peu, connaître des gens qui pourraient éventuellement m'aider? Parce que tout simplement, Dieu n'est pas au centre de ma vie. Et que Dieu n'étant pas au centre de ma vie, ben, je suis conduit souvent dans ma vie à aller chercher ailleurs ce que Dieu seul peut me donner. Quand j'étais à Anduze, à Alès, un jour j'ai rencontré une dame qui me dit, j'avoue que là, je ne m'attendais pas du tout à la question, parce qu'on était en train de parler de choses spirituelles, de choses de Dieu, et je ne m'attendais pas du tout à la question, et je ne m'attendais pas du tout d'ailleurs à lui faire cette réponse, parce que c'est parti du tac au tac, autant pour elle que pour moi. Et elle me dit, de quel signe es-tu? Et moi j'ai répondu, je suis chrétien. Alors, j'ai dit, mais vous y croyez vraiment à tout ça? Elle me dit non, elle me dit évidemment que non. Je vous pose juste la question comme ça, juste comme ça. Elle me dit évidemment que non. Elle dit, mais Dieu merci, je ne suis pas superstitieux, monsieur, je touche du bois. Et elle me dit, je lui dis, mais si, vous y croyez quand même. Et de fil en aiguille, on est venu un petit peu à parler. Et je citais ce verset de Jean, que nous trouvons au chapitre 8, un verset qui est bien connu. Et je lui ai dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre, selon une autre version. Et Jésus dit un petit peu plus loin, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et cette femme, je lui ai lu ce verset de la Bible, je l'ai cité de tête. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, la vérité vous affranchira. Eh bien oui, c'est vrai, nous avons besoin d'être affranchis. Dieu dit de ne pas mettre notre confiance dans l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, dit Dieu. Et nous avons lu dernièrement ce passage de la Bible dans l'Exode, où il était parlé de Pharaon et des plaies d'Égypte. Il est intéressant de lire ce texte, il est intéressant de voir pourquoi Dieu a frappé l'Égypte, bien évidemment pour laisser son peuple partir, puisque Pharaon ne le voulait pas, mais il est intéressant de voir pourquoi Dieu a frappé les plaies et pourquoi ces plaies ont été ciblées en quelque sorte. Et on voit au début, quand Pharaon demande un miracle à Moïse, Moïse jette son bâton et le bâton se transforme en serpent. Et puis, les devins qui sont à côté, les mages, ils en font tant. Ils jettent leur bâton et leur bâton aussi se transforme en serpent. Et puis ça marche comme ça, une fois, deux fois, trois fois. Et puis, sauf erreur de ma part, mais je crois qu'au bout de la troisième plaie, les mages ne peuvent plus faire, ne peuvent plus imiter Dieu, ne peuvent plus faire ce que Dieu fait. C'est-à-dire que Dieu montre par là qu'il est plus puissant que les mages, qu'il est plus puissant, je dirais, que ces devins, que ces mages, qui étaient là pour conseiller Pharaon. Et on voit dans ces 10 plaies d'Égypte, c'est que Dieu frappe chaque fois et démontre par ces plaies que Dieu est au-dessus du Dieu des Égyptiens. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une plaie, ça voulait dire en même temps que le Dieu des Égyptiens n'était pas capable de les protéger. Et c'est Dieu qu'ils invoquaient, c'est Dieu qu'ils adoraient pour ceci, pour cela, pour le bétail, pour les moissons, pour tout, hein, pour toute chaque plaie d'Égypte avec lesquelles Dieu a frappé l'Égypte. Eh bien, on voit chaque fois, ce sont des plaies qui touchent directement un Dieu qui était censé protéger l'Égypte. Et Dieu voulait montrer par cela que le Dieu des Égyptiens ne servait à rien, tout comme les Baals, qu'Israël adorait, hein, puisqu'ils étaient allés auprès de Baal, puisqu'ils s'étaient détournés de Dieu. Et Élie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait la même chose. D'abord, il a laissé passer les prophètes de Baal, il leur a donné tout le temps qu'il fallait. Vous choisissez le taureau, vous choisissez comme vous voulez faire, et vous prenez tout votre temps. Pourquoi il a fait ça, Élie ? Pourquoi Dieu a fait ça ? Pour montrer sa supériorité, pour montrer la grandeur de Dieu, pour montrer sa supériorité par rapport à tous les autres dieux, par rapport au Dieu peut-être aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, c'est Dieu auquel je veux m'attacher, et qui ne me serve à rien. Et cette dame dont je vous parlais, qui m'avait demandé donc de quel signe j'étais, parce que elle n'était pas attachée à ça, mais elle m'avait aussi parlé de signe astral, je ne sais plus trop quoi, enfin comment ça s'appelle, mais ça n'a pas tellement d'importance, donc elle voulait faire tout un tas de trucs. Elle m'avait parlé de maison, tout ça dans le ciel, enfin bref, tout ça. Et je lui ai dit, moi ça ne m'intéressait pas du tout, et j'avais parlé, j'avais témoigné. Et elle avait fini par me dire qu'effectivement, elle ne s'adonnait qu'à ça parce qu'en fait, elle ne connaissait pas Dieu, véritablement. Elle connaissait un Dieu comme ça qu'elle avait entendu dans son enfance. Et elle m'avait dit, par la suite, puisqu'elle était venue à l'église, elle m'avait dit, j'avais souvent rencontré des gens qui me parlaient de Dieu, mais je me sentais toujours jugé. Je me sentais toujours jugé, je me sentais toujours rabaissé. Je trouvais que c'était souvent des paroles dures, pas de miséricorde. Et elle me dit, quand tu m'as dit, si donc le fils vous a franchi, vous serez libre, elle m'a dit, j'ai senti vraiment une parole d'espérance, une parole d'amour, et j'ai senti que Dieu m'aimait. Eh bien, nous voyons, effectivement, Dieu nous aime. Dieu veut nous arracher, je dirais vraiment, de la vanité souvent que nous avons dans notre vie. Et je voulais pour ça lire un passage dans l'épître de Timothée, où Paul disait, recommande aux riches présents de ce présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Ne pas mettre son espérance dans les richesses. Alors vous savez, quand on parle de travail, il faut être clair aussi. Quand Dieu nous appelle à lui, et quand je deviens chrétien, je ne deviens pas une feignasse pour autant. Et on pense des fois que le fait de travailler, il y a comme un péché, vous savez. Oui, mais si je réussis dans la vie, si je gagne de l'argent, souvent les gens, on associe ça un petit peu à un péché. Hein. Oui, il ne faut pas trop quand même, parce que, bon, voilà. Mais ça, c'est faux, ça. Ça, c'est totalement faux. Je dirais, Dieu bénit le travail de nos mains. Il le dit d'ailleurs dans la Bible. Je bénis le travail de tes mains. Et je te bénis pour que tu aies des richesses en abondance. C'est ce que dit Dieu aussi. Donc Dieu n'est pas contre le travail. Dieu n'est pas contre la richesse. Il est contre l'usage qu'on en fait souvent. Et il est contre l'usage qu'on en fait et contre la place que je donne dans ma vie à ces choses. C'est-à-dire qu'il supplante Dieu. Non, Dieu n'est pas contre le travail et la réussite dans le travail. Dieu n'est pas contre la richesse, puisqu'il est dit dans cette même épître un petit peu plus loin que Dieu nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Non, Dieu est large, Dieu bénit largement. Et la bénédiction de Dieu, vous savez, elle est pour nous, pour notre vie. Et contrairement à certaines pensées reçues, vous savez, on n'est pas plus spirituel parce qu'on est pauvre. Il y a un adage qui dit, de toute façon, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors moi, comme j'ai souvent répondu aux gens qui me disaient ça, moi, tu sais, j'ai jamais vu un pauvre malheureux, un pauvre heureux. Celui qui n'a pas du tout d'argent et qui n'a pas de quoi se nourrir, il n'est pas heureux pour autant. Alors, l'argent ne fait pas le bonheur. Certes, si, l'argent, il fait le bonheur, mais tout dépend comment on s'en sert. Et tout dépend pour quel usage on en a. Oui, parce que l'argent, on en a besoin, c'est comme ça. Hein. Et le fait d'être pauvre, je dirais, ne rend pas les gens heureux pour autant. Donc, effectivement, Dieu nous bénit richement. Dieu nous appelle ce matin et Dieu nous rappelle par ce texte que nous avons lu dans l'évangile de Jean que si Dieu nous a franchis, pardon, nous serons réellement libres. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. De quoi avons-nous donc besoin d'être affranchis si nous étions si libres? Ce qui prouve bien que nous ne sommes pas libres dans notre vie tant que Dieu ne nous a pas rendus libres et tant que Dieu ne nous a pas affranchis. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, dit Dieu. C'est ce que, un passage que nous trouvons dans l'Apocalypse. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. » C'est un passage qui m'est toujours resté en mémoire, bien sûr, comme beaucoup d'autres, mais principalement celui-ci, parce que c'est le passage qui m'a touché quand j'ai entendu un jour, pour la première fois, la parole de Dieu dans une église. Bon, j'étais, oui, religieux, comme tout le monde, hein, je veux dire, voilà. Et comme j'avais dit à un pasteur, avant d'être converti, je lui avais dit comme ça, je lui ai dit, oh, ben, tu sais, moi, oui, je connais tout ça, j'étais au temple quand j'étais petit, ma famille est protestante, une grande partie de ma famille est protestante, du côté de Mazamet, tout ça, donc je lui ai dit, oui, je connais tout ça. Et le pasteur de me répondre avec un grand sourire, très gentiment, il m'a dit, tu sais, c'est pas parce que t'es né dans un garage que t'es une voiture. Alors, il m'a dit, mais toi, il me dit, c'est bien, tes parents, tes grands-parents, tes ancêtres, tout ça. Mais toi, il m'a dit, tu en es où ? Il dit, quelle place a Dieu dans ta vie ? Il dit, tu me parles des autres, mais il dit, mais toi ? Et j'avais été donc un culte avec lui et j'avais entendu cette parole. Si quelqu'un entend ma voix, si je frappe à la porte, si quelqu'un entend ma voix et ouvre, je souperai avec lui et je serai avec lui. Vous savez, des fois, quand on frappe à notre porte, quand on sonne à notre porte, il y a tellement de boucan dans la maison, vous êtes obligé de tambouriner dans la porte pour faire savoir que vous êtes derrière. Et que vous essayez désespérément d'appeler la personne qui est de l'autre côté. Jésus, il frappe à la porte. Si j'entends sa voix, et j'ouvre la porte, il entrera dans mon cœur, dans ma vie. Il soupera avec moi, ça veut dire qu'il sera en communion avec moi. Et Dieu me bénira. Pour entendre, vous savez, quelqu'un qui frappe ou qui sonne à la porte, des fois, ben, il faut qu'il y ait un peu de silence dans la maison. Des fois, il y a tout qui marche. La chaîne IFI, la radio, la télé, tout. Et tellement de bruit qu'on n'entend pas du tout qu'il y a quelqu'un à la porte. Alors des fois, on trouve un petit mot, je suis passé, je reviendrai. Dieu, ce matin, Dieu veut nous bénir. Dieu, ce matin, veut nous appeler à lui. Entendons la parole de Dieu. Entendons ce Jésus qui frappe à notre porte et qui veut entrer dans notre vie et qui veut nous affranchir de toute forme d'esclavage, de toute forme de dépendance, de toute forme de péché. Oui, Dieu nous bénit. Oui, Dieu entre dans notre vie ce matin. Dieu nous parle. Dieu nous bénit. Dieu nous appelle à lui. Répondons à son appel. Acceptons la bénédiction de Dieu. Acceptons la parole de Dieu. Et acceptons que Dieu règne, gère notre vie, conduise notre vie. Amen.